Discussion du soir. Les discussions du soir, René Friedman.
Luc Ferry, merci d'être venu pour cette nouvelle émission Discussion avec. Nous allons donc discuter tous les deux, surtout de la révolution transhumaniste, puisque c'est votre dernier livre et que j'y ai trouvé énormément d'arguments sur une thématique qui est très courue actuellement, mais sur laquelle on se rend compte que nos auditeurs en général ne connaissent pas. Il faut dire que c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il y a beaucoup de définitions de ce que c'est que le transhumanisme. Alors, évidemment, je me tourne vers vous et puis je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est que le transhumanisme ? Y a-t-il un ou plusieurs transhumanismes ?
Oh, il y en a plusieurs. D'abord, merci à vous pour cette invitation. Il y en a plusieurs, mais il y a quand même trois idées fondamentales. Un, première idée, c'est de passer d'une médecine thérapeutique à une médecine de l'augmentation, de l'amélioration de l'être humain. Il s'agit de rendre l'être humain plus intelligent, plus fort, plus grand, plus beau, tout ce que vous voudrez, en tout cas de l'améliorer. Et évidemment, ça pose beaucoup de problèmes éthiques et politiques. Deuxièmement, deuxième grande idée, il s'agit, après avoir essayé de corriger avec l'État-providence, on a essayé de corriger les inégalités sociales, le transhumanisme veut corriger les inégalités naturelles. En anglais, ils disent tous « from chance to choice », passer de la loterie génétique qui est injuste, qui est inégalitaire, la maladie génétique, ça vous tombe dessus, l'anomalie génétique vous tombe dessus, donc vous n'y pouvez rien, c'est à la fois injuste et inégalitaire, donc de corriger pas simplement les inégalités sociales, mais aussi les inégalités naturelles, notamment quand l'ingénierie génétique sera capable de le faire, ce qui pour l'instant n'est quand même pas encore le cas.
On va en reparler, mais est-ce que ça c'est pas un courant, l'autre serait plutôt un risque d'avoir des super-humains, qui est l'égalité, comme vous dites, répartie sur tout le monde, discutable.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux mots dans la tradition, si on peut déjà parler de tradition, mais enfin ça existe déjà depuis une trentaine d'années aux États-Unis. Il y a deux mots différents, il y a transhumanisme et post-humanisme.
Oui, vous distinguez très bien dans votre livre.
C'est très important de faire la distinction entre les deux, parce que le transhumanisme, à mon avis, est une idéologie relativement défendable. Elle est pleine de promesses qui sont intéressantes, c'est pas absurde.
D'ailleurs, on y est déjà.
On y est déjà,
bien sûr. On va le détailler, je crois que les gens se rendent pas compte qu'on est déjà dans le transhumanisme.
Ne serait-ce que par l'hybridation homme-machine, par exemple le cœur de Carmat, du professeur Charpentier, c'est déjà vraiment quelque chose qui relève de l'augmentation.
Dans le domaine de la reproduction, on dépasse la nature, avec par exemple des femmes qui peuvent être enceintes à 60 ans, etc.
Exactement.
On va y revenir.
Avec d'ailleurs à chaque fois des débats éthiques et politiques sur les sujets. Mais c'est clair qu'une femme qui peut avoir un enfant passé l'âge de la ménopause, eh bien, on est déjà dans le transhumanisme, on est déjà dans l'augmentation. Mais même, par exemple, la chirurgie esthétique, c'est déjà de la médecine de l'augmentation, parce que la laideur n'est pas une maladie, quelle que soit la définition qu'on en donne. Donc, il y a cette idée, cette deuxième idée qui est de passer donc des inégalités naturelles à la correction de ces inégalités. Donc, pas simplement corriger les inégalités sociales, mais aussi les inégalités naturelle. Et puis, il y a une troisième grande idée qui préoccupe notamment Google, puisque Google investit énormément dans le transhumanisme, c'est de parvenir à lutter contre la vieillesse et la mort. Google a créé en 2013 une filiale qui s'appelle Calico, Californian Life Company, dotée au départ de 430 millions de dollars. Et le but de cette firme, de Calico, dirigée par un très grand biologiste, c'est de parvenir à lutter enfin contre le vieillissement et contre la mort. Ce qu'on n'a jamais réussi à faire pour l'instant avec les humains. On a réussi à le faire avec des souris, les souris transgéniques de l'université de Rochester.
Enfin, elles gagnent 30%.
Elles gagnent 30%, ce qui est déjà pas mal.
Mais enfin, nous aussi, on a gagné. Parce que si on regarde un petit peu en arrière, durée de vie.
Non, on n'a rien gagné. On a gagné en espérance de vie, mais pas en longévité. C'est-à-dire qu'on a éradiqué les morts précoces, notamment grâce aux antibiotiques, grâce à la médecine, d'une manière générale, mais beaucoup grâce aux antibiotiques. Et puis aussi, meilleure alimentation, etc. Mais on meurt toujours autour de 100 ans. On n'a jamais vécu 200 ans. Or, le projet de Calico... Donc, autrement dit, soyons clairs, il ne s'agit pas simplement d'augmenter l'espérance de vie, ce qu'on a fait, en effet, tout au long du XXe siècle. Je vous donne d'ailleurs le chiffre, il est très frappant. En 1900, l'espérance de vie des Français, elle est de 45 ans. En 1951, date de ma naissance, l'espérance de vie des Français en moyenne est de 63 ans. Aujourd'hui, elle est de 82 ans. Je prends hommes et femmes en même temps. Donc, on a augmenté considérablement l'espérance de vie, mais pas la vie elle-même. Encore une fois, on meurt toujours, en gros, autour de 100 ans. Jeanne Calment reste un record mondial.
122,
et personne n'a vécu 150 ans. Et donc, le projet de Calico, justement, c'est de parvenir, ce qu'on a fait pour les souris de l'université de Rochester, à augmenter la vie humaine réellement, c'est-à-dire à faire des humains qui vivent 130, 140 ans, 150 ans. C'est d'ailleurs un projet qui n'est pas inintéressant, indépendamment du fait qu'on n'a pas forcément envie de mourir. C'est aussi le projet de fabriquer une humanité qui serait à la fois jeune et vieille, hein, vous connaissez le slogan.
Mais on va venir là-dessus.
Oui, on va y revenir.
Mais
c'est les trois idées de base. Il y en a d'autres, mais c'est les trois idées de base.
D'une part, s'améliorer dans les capacités de vie, hein, et on va en venir justement sur des points déjà acquis et d'autres qui se développent.
Oui.
Et puis, effectivement, aborder la question de l'éternité, qui fera l'objet d'ailleurs peut-être d'une deuxième émission, tellement nous avons de choses à nous dire. Alors, les grandes étapes, là, récentes, hein, qui sont toutes récentes. D'abord, moi, je trouve que la fécondation in vitro, la naissance de Louise Brown en 78, c'est quand même une transgression et une possibilité de faire hors nature, je dirais, quelque chose. La naissance de Dolly avec, je dirais, de Jan Wilmuth, avec ce clonage, là aussi, c'est quand même une étape fondamentale. Avec des gens qui déjà, sur le plan idéologique, comme Raël, commencent à évoquer les faits de, on va télécharger la mémoire et on va se la mettre sur un disque dur. Donc on a bien sûr des fantasmes, mais on a aussi des réalités qui fait que on touche de plus en plus à cette capacité qu'il y a chez l'homme à être réparer d'abord, mais d'une façon quand même innovante, hein, parce que les greffes d'organes, mais aussi les greffes de cellules, mais aussi les cellules souches. Et puis, je dirais, cette notion donc de se développer sans limite. On va parler du cerveau, l'intelligence artificielle. On va parler de ce qui a fait cette révolution il y a maintenant 50 ans déjà, c'est-à-dire la cybernétique, qui fait donc ce lien entre, que vous abordez d'ailleurs dans le livre aussi, la révolution transhumaniste, qui est donc cet homme-machine, machine-homme. Je ne sais pas comment il faut le dire. Vous pointez une chose, c'est que en France ou en Europe, on est en retard. Et que si vous avez regardé ce qui se passe aux États-Unis, le nombre de mouvements transhumanistes est très important, avec des différences que vous avez évoquées tout à l'heure. Et comment vous comprenez ça ? Des gens comme Isaac Asimov, comme Ray Kurzweil, comme même Gilbert Rozoy que vous citez beaucoup.
Parce que la révolution transhumaniste, elle repose comme l'économie collaborative, Uber, Airbnb, etc. Elle repose sur une plateforme technologique qui est celle de la troisième révolution industrielle, ce qu'on a appelé les NBIC, hein, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitivisme. Ce qu'on appelle le cognitivisme en anglais, c'est en fait l'intelligence artificielle. Et donc, cette plateforme, elle est américaine. Les GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook, ont investi massivement dans cette plateforme de la troisième révolution industrielle. L'économie collaborative comme le transhumanisme nous viennent des États-Unis et aux États-Unis, ils sont en effet très en avance. Alors, les gens qui sont contre diraient, cette avance n'est pas un progrès forcément, mais en tout cas, technologiquement, ils sont très très en avance sur la France. On a un président de la République qui, l'autre jour, ignorait ce qu'était le bon coin, ce qui est évidemment très surprenant pour un Américain qui ne peut pas imaginer qu'on ignore les retombées, les start-up de la troisième révolution industrielle à ce point-là. Bon, et c'est vrai qu'en France, nos politiques, comme nos intellectuels d'ailleurs, sont tout à fait en retard par rapport au débat américain, y compris sur le plan éthique et politique, qui porte sur la troisième révolution industrielle, donc aussi bien sur le transhumanisme que sur l'économie collaborative. Donc aux États-Unis, encore une fois, il y a eu des milliers de colloques, de publications, de débats politiques, éthiques, dans des comités d'éthique, notamment sur ces questions posées par la troisième révolution industrielle, alors qu'en France, en gros, on découvre Uber en 2014, et quand j'ai publié mon livre sur le transhumanisme, les gens me demandent, mon ami, par exemple, Eric Orsena, pour ne pas le citer, qui est vraiment pour moi comme un frère, me disait, mais non, n'appelle pas ton livre transhumaniste, parce que personne ne sait ce que c'est en France. Voilà. Et donc, oui, on a un très grand retard. Bon, encore une fois, pour ceux qui considèrent que c'est pas un progrès, c'est pas un retard non plus, mais technologiquement, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un très grand retard. Alors, c'est lié aussi à toute l'idéologie française. Hein, pardon, je rajoute juste un petit point là-dessus. J'avais l'autre jour une discussion avec le patron de Google en France, Nick Leeder, qui est d'ailleurs un homme charmant, et il me faisait remarquer une chose qui est très profonde. Il me disait, nous aux États-Unis, quand il y a des nouvelles technologies, on s'intéresse aux service rendu au consommateur. Les mots ont un sens. Service consommateur. Vous, en Europe, et singulièrement en France, vous vous intéressez à la protection du citoyen. Autrement dit, eux, ils sont debout sur l'accélérateur. Nous, on est debout sur les freins. En fait, il faut les deux. Je nie pas la pertinence des interrogations républicaines à la française, mais c'est vrai que pour l'instant, on a surtout les freins et qu'on est très, très en retard. Et c'est très inquiétant parce que ce qui fera le 21e siècle, c'est pas Daesh. Ce qui fera le 21e siècle, ce sont les GAFA. C'est la troisième révolution industrielle qui va bouleverser le monde. Ça, Daesh, c'est un emmerdement épouvantable, mais c'est un caillou dans la chaussure terrible. Mais c'est pas ça qui fera le 21e siècle. Ce qui fera le 21e siècle, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Et ça, malheureusement, c'est quand même totalement dominé par les États-Unis.
Alors, justement, quand on regarde, il y a les États-Unis, il y a l'Asie, il y a l'Afrique, il y a tellement de monde que de là à voir les hommes augmenter partout, ça, on se dit, est-ce que c'est pas un petit peu refermé sur soi?
Oui.
Je dirais cette vision mondiale, en tous les cas,
oui.
De l'homme blanc, comme par hasard,
pour l'instant, oui.
Etc. Et oui. Alors, justement, oui. Sur le plan, là, je m'adresse à Luc Ferry, philosophe. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a une lignée humaniste qui s'inscrit dans cette notion de progrès, on
oui.
va dire. Et puis, il y a une notion plus matérialiste qui existe aussi, qui est cette déconnexion, je dirais. Alors, bizarrement, on en reviendra avec un spirituel qui est tout puissant puisqu'il est déconnecté du corps. Et quelque part, c'est quand même la machine et toutes les connexions qui créent le système D du futur. Donc, comment vous jugez cet développement de la pensée dans le profil des Lumières ou pas?
Il y a un transhumanisme héritier des Lumières, hein, qui est à dire très clairement héritier de Condorcet. D'ailleurs, souvent les philosophes transhumanistes ou les scientifiques transhumanistes citent Condorcet. C'est à l'idée que la perfectibilité humaine est infinie, qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. Ça rejoint d'ailleurs le From Chance to Choice dont je parlais tout à l'heure, hein, de la chance, de la loterie injuste au choix. C'est l'idée qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter dans le perfectionnement de l'être humain. Si on peut lutter contre la vieillesse et contre la mort, si on peut rendre les humains plus résistants, plus fort, y compris en les modifiant génétiquement. Pourquoi pas? Évidemment, il y a tout un principe de précaution à appliquer, mais pourquoi pas aller dans le sens d'une perfectibilité infinie de l'être humain?
Sans conséquences délétères.
Voilà. Évidemment, c'est en tenant compte de la prudence nécessaire, des risques que d'ailleurs les transhumanistes analysent et connaissent très bien. Et puis vous avez un autre projet qui est tout à fait différent, que je parlais tout à l'heure de post-humanisme, nous parlions de post-humanisme, c'est l'idée... En fait, il faut bien le comprendre. Les gens ont du mal à comprendre ça. L'idée des post-humanistes, c'est-à-dire l'idée de Ray Kurzweil, qui est le patron de l'université de la singularité créée par Google en 2008, elle a aussi financé à coût de milliards de dollars. C'est pas une plaisanterie. Quand Google investit là-dedans, c'est pas des débutants, il faut prendre ça au sérieux. L'idée est la suivante, ce sont des matérialistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils pensent, ces post-humanistes, on peut les appeler comme ça, ils pensent que nous sommes déjà des machines. Le cerveau n'est qu'une machine. Si vous êtes matérialiste et que vous n'êtes pas dualiste, vous pensez pas que l'âme est déconnectée du corps, donc vous êtes moniste, comme on dit en philosophie, donc vous pensez que l'âme n'est qu'un produit du cerveau, du fonctionnement du cerveau, alors nous sommes déjà des machines. Nous sommes des machines hyper complexes, hyper sophistiquées, des machines vivantes, d'accord, mais nous sommes quand même des machines. Et donc l'idée post-humaniste, c'est que un jour ou l'autre, on parviendra à imiter parfaitement dans un ordinateur les connexions neural, hein, le câblage neural, et donc on fabriquera un cerveau artificiel, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, hein. C'est pas la faible, c'est vraiment la forte. La faible, c'est celle qui bat les joueurs d'échecs ou les joueurs de go. Ça, c'est facile, si je puis dire, mais l'intelligence artificielle forte, on l'aura quand on aura fabriqué une machine qui aura les mêmes connexions neurales cérébrales que nous, que vous et moi, et qui par conséquent aura non seulement la capacité de battre le champion du monde de jeu de go, mais elle aura la conscience de soi et elle aura des émotions. Donc ce sera vraiment un Terminator, si je puis dire. Ce sera comme dans les romans d'Asimov, on aura vraiment fabriqué des robots humains, c'est-à-dire des robots comme dans Real Human, cette série qui est d'ailleurs tout à fait remarquable. On aura fabriqué des robots qui ont non seulement l'intelligence capable de battre le champion du monde d'échecs, mais aussi la conscience de soi et des émotions. Alors personne n'est capable de dire si c'est délirant ou pas aujourd'hui. Moi j'ai discuté avec des gens de l'université de la singularité. extrêmement difficile de réfuter leurs arguments. Ils sont très forts, sont souvent des gens extrêmement talentueux, très grands mathématiciens, très grands informaticiens, et donc ils sont matérialistes simplement. Ils se disent mais nous sommes déjà des machines, donc on réussira un jour à fabriquer des machines qui auront la même complexité que notre cerveau d'aujourd'hui. Et alors là, évidemment, on aura vraiment fabriqué des machines immortelles, parce qu'on pourra en effet télécharger leur mémoire, leur intelligence, leur savoir sur l'équivalent de ce que seront les clés USB dans 100 ans ou 150 ans. Donc c'est ça le projet post-humaniste. C'est pas la même chose que le projet donc transhumaniste qui lui vise simplement à faire ce que vous, René Friedman, vous faites déjà depuis des années, c'est-à-dire à améliorer le sort de l'être humain par en adjoignant l'artificiel au naturel. Voilà.
Luc Ferry, vous êtes sur l'explication donc importante dans votre livre et ici à la radio sur les différents courants du transhumanisme jusqu'au post-humanisme, cette véritable hybridation avec la machine. Et vous faites la distinction entre la situation soft, on va dire, et forte, donc une machine conscience d'elle-même qui serait une autonomie, on va dire, de décision et de sentiments, qui semble un peu lointain, faut bien le dire. Soft, par contre, ça progresse. Bien sûr, le Go, ça fait quand même pas tellement longtemps que le meilleur joueur de Go a été battu. Les voitures qui conduisent toutes seules, l'homme prothèse, celui qui court plus vite, qui soulève des charges plus lourdes, qui apprend plus vite, c'est un dopage qui existe aux Jeux Olympiques dans certaines régions du monde, on le sait, institutionnalisé, mais qui là se généralise. Et sur le plan, est-ce que ça, c'est une perfectibilité pour vous, philosophe?
Tout dépend de ce qu'on en fait. Prenons un exemple pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, parce que c'est vrai que c'est difficile, et puis on croit que c'est de la science-fiction, et ça n'en est plus. Il faut bien comprendre que c'est déjà réel. Il y a une firme allemande qui a fabriqué une puce électronique qu'on greffe derrière la rétine, et qui rend une vue, certes médiocre et très globale, mais malgré tout qui rend la vue à des personnes qui ont perdu la vue à cause d'une maladie qu'on appelle la rétinite pigmentaire. Hein, ça marche pas sur les aveugles nés, mais sur les personnes qui ont perdu la vue, mettons, vers l'âge de 6-7 ans,
ça fonctionne. Oui, nous avons reçu l'auteur de cette révolution médicale précédemment.
C'est très intéressant. Parce que pour l'instant, bon, alors évidemment, faut pas rêver. Pour l'instant, ça donne une vue très grossière. Mais imaginez, c'est une hypothèse fictive, mais c'est pour qu'on se comprenne. Imaginez que cette firme allemande progresse et que dans 20 ans, dans 30 ans, cette puce électronique soit capable non pas simplement de vous donner une vue globale, mais de vous donner une vue d'aigle et que vous soyez capable de voir un mulot à 3 km. Bon, je pense que vous et moi, on va peut-être pas aller se précipiter à l'hôpital pour se faire greffer la chose, parce qu'on s'en fout de voir un mulot à 3 km, mais réfléchissez aux armées. Les armées, immédiatement, elles vont augmenter, et là ce sera vraiment de l'augmentation, enhancement on dit en anglais, les armées vont augmenter leurs soldats, elles vont fabriquer des escadrons de soldats qui auront une vue d'aigle et qui pourront être des snipers, des marins, des aviateurs, beaucoup plus performants qu'aujourd'hui. Et puis après, si on le fait dans les armées, on le fera dans les familles. Hein, si j'équipe mon fils d'un équipement qui augmente sa force, son intelligence ou que sais-je encore, le voisin voudra en faire autant pour ne pas désavantager sa progéniture. Voyez. Et donc le grand risque, en vérité, c'est que la compétition ultralibérale nous entraîne dans une course à l'augmentation et d'ailleurs, je dirais, dans un tourisme géopolitique. C'est déjà le cas, par exemple, pour la chirurgie esthétique. Vous savez qu'au Brésil, c'est beaucoup moins cher, beaucoup moins fiable aussi, à mon avis, mais enfin, c'est beaucoup moins cher qu'en Europe, bon, ou qu'aux États-Unis. Donc il y aura un tourisme du transhumanisme, si vous voulez, et une compétition entre les armées, entre les nations, entre les familles. C'est ça le grand risque pour moi. C'est pourquoi tout mon livre plaide pour la régulation. Ce sera très difficile de réguler parce que peut-être on en parlera tout à l'heure. Mais
oui,
vous voyez pourquoi?
Parce que
la compétition risque de nous entraîner dans une course folle à l'augmentation, à la limite sans que personne ne l'ait voulu. Je pense que c'est ça le vrai danger du transhumanisme.
Et Luc Ferry, qu'est-ce que vous pensez de la remarque de Peter Sotergic sur le fait que les insuffisances du corps, cette dévaluation du corps, enfin, ces insuffisances sont les précurseurs de l'homme de demain, parce qu'on va vouloir réparer justement ou plutôt augmenter ce qui ne fonctionne pas au mieux.
Ça reste encore thérapeutique, parce qu'au fond, augmenter ce qui ne fonctionne pas au mieux, c'est pour ça dire, il faut faire attention, parce que il y a plusieurs formes d'augmentation. Vous pouvez augmenter l'être humain, mais tout en restant dans un cadre naturel. Par exemple, une femme qui va après la ménopause avoir un enfant, ça reste quand même une femme qui accouche et qui a un enfant. C'est quand même, on reste dans un cadre je dirais, naturelle, même si c'est une augmentation par rapport à la nature traditionnelle, si je puis dire. Mais en revanche, si vous faites pousser un troisième œil ou un troisième bras, vous êtes dans une augmentation qui n'est plus naturelle. Donc il faut bien distinguer deux types d'augmentation, une augmentation naturelle et une augmentation extra-naturelle. Si par exemple, on a une vue d'aigle, est-ce que ce sera naturel, parce qu'après tout, on a quand même une vue, ou est-ce que ce sera extra-naturel, parce qu'une vue d'aigle, c'est pas une vue humaine. Vous voyez, c'est difficile de définir très précisément, de faire passer très précisément la limite entre une augmentation qui reste dans un cadre de l'organisme naturel, qui simplement le rend plus performant, et puis une augmentation qui, par exemple, un troisième œil sortirait
surtout
du cadre naturel. Oui, surtout s'il est derrière, ou un troisième bras, ce qui peut servir à se gratter le dos, mais enfin, sinon, je vois pas bien l'utilité.
Mais là, disons la vérité, que, bon, c'est que on est un peu dans la science-fiction quand même, dans des hypothèses, alors que après une petite période de repos musical, on va aborder cette phrase que vous avez citée, Luc Ferry, From Chance to Choice.
Oui, hein, c'est le point fondamental.
C'est le point fondamental, parce
oui,
que là, on y
absolument
est aujourd'hui.
On y est
et
aujourd'hui,
surtout,
oui,
dans la médecine anténatale, les développements sont énormes et je voudrais vous entendre là-dessus.
Discussion du soir. René Friedman avec Luc Ferry.
Luc Ferry, nous abordions donc dans cette grande question du transhumanisme du futur ce qui existe déjà et qui est cette situation où l'homme, certains en tous les cas, ceux qui ont quelques moyens dans notre planète, peuvent décider, peuvent choisir un certain nombre de choses et pas être victime, je dirais, du hasard. Donc, from chance to choice. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de la reproduction humaine, parce qu'on a vu qu'avec l'échographie, on voit ce que l'on ne voyait pas. Avec la génétique, on a énormément de possibilités de connaissances, même si ça doit être modulé et que c'est pas un livre ouvert absolu, la génétique, mais quand même, ça donne certaines orientations. Alors, est-ce que sur le plan philosophique, puisque c'est au philosophe Luc Ferry que je m'adresse, ce choix ne devient pas trop lourd à porter? Ce choix qui se développe en plus avec, par exemple, et vous le connaissez, les découvertes toutes récentes de CRISPR et le Cas9, qui va en plus, c'est un outil donc biologique, c'est des espèces de ciseaux moléculaires qui vont permettre de modifier un certain nombre de mutations, soit de les créer, soit de les enlever, soit de les rechanger.
Oui, en effet, le CRISPR-Cas9, c'est vraiment une, ça ouvre, bon, c'est donc un sécateur d'ADN, ça permet de couper, coller l'ADN quasi aussi facilement qu'on coupe, on colle une phrase sur un traitement de texte, et c'est vrai que ça ouvre des possibilités à l'ingénierie génétique qui sont absolument inimaginables. Pour l'instant, c'est surtout une technique plus qu'une science, parce qu'on sait pas exactement ce qu'on fait, quelles sont les retombées, les effets pervers, mais évidemment qu'on finira par les maîtriser, et donc ça ouvre la voie à l'ingénierie génétique. Philosophiquement, sur cette question, au fond, des manipulations génétiques, comme on disait il y a 30 ans, maintenant on parle plutôt d'ingénierie génétique, mais c'est la même chose. Il y a au fond deux grandes thèses philosophiques qui s'affrontent. Il y a une thèse qui est défendue, par exemple, par un philosophe américain très très connu aux États-Unis qui s'appelle Francis Fukuyama, qu'on a un peu découvert en France il y a 30 ans avec ses fameuses thèses sur la fin de l'histoire, qui étaient très intéressantes. Et au fond, Fukuyama, comme l'Église catholique, il prend la nature comme une norme morale, ce que je conteste totalement, mais je comprends la thèse, il faut expliquer aussi les arguments des autres et pas simplement les siens. Et au fond, comme l'Église catholique, un certain nombre de philosophes, je dirais naturalistes, considèrent que la nature est une norme morale. D'ailleurs, pour prendre un exemple en France qu'on a tous connu il y a 2 ans, dans les manifs pour tous, dans les manifestations hostiles au mariage gay, constamment, on entendait répéter cet argument que la nature, hein, c'est un homme, une femme et des enfants. Et donc, du coup, l'idée que la nature est une norme morale. Ce qui, à mes yeux, pardon de le dire un peu brutalement, est une idée complètement absurde parce que la nature est tout sauf morale. Il n'y a que les nazis pour avoir pris la nature comme un modèle moral. La nature, c'est les gros mangent les petits, les forts bouffent les faibles. Et jamais on n'aurait construit ni la démocratie, ni la médecine si on avait considéré que la nature était sacrée.
Ah, les médecins interviennent toujours parce que la nature a des déficiences.
Parce que la nature a des déficiences. Il n'y a rien de plus antinaturel que les antibiotiques, par exemple. Bon, et donc, voilà, je pense que cette idée que la nature est une norme morale est une idée absurde. Alors, évidemment, il y a des grands philosophes qui l'ont défendu avec des arguments que peut-être on va laisser de côté là, ce serait trop long. Mais globalement, je n'adhère pas du tout à cette thèse. Et donc, oui, moi, je pense que ça renvoie à cette possibilité qui nous est ouverte, comme on dit, les pouvoirs de l'homme sur l'homme dans l'ingénierie génétique, cette possibilité de manipuler le génome humain. Ça nous renvoie non pas à la norme sacrée de la nature, mais à notre liberté, c'est à notre responsabilité, c'est au problème de la régulation à nouveau. C'est le même problème, je dirais, que pose toute la troisième révolution industrielle, aussi bien avec Airbnb ou Blablacar ou Uber, dans le domaine de l'économie, qui appelle aussi la régulation, que dans le domaine du transhumanisme. Autrement dit, jusqu'où peut-on aller trop loin, si je puis dire? Où est-ce qu'on doit s'arrêter? Qu'est-ce qu'on doit autoriser? Qu'est-ce qu'on doit interdire?
Voilà, on va parler des limites.
On va parler des limites.
C'est
pas la nature qui peut le décider.
Puisqu'on n'a plus de limites techniques, on va avoir des limites autres.
Mais bien
il
sûr.
Il va falloir les définir et avoir des points de repère. Mais là, déjà, par exemple, dans la reproduction, on a des connaissances sur l'enfant à venir, accepter, pas accepter, le choix de savoir qu'une vie peut être endommagée, difficile, mais peut-être heureuse, ou bien de prendre la décision de ne pas laisser vivre cette vie, c'est déjà quelque chose que les obstétriciens et les parents, malheureusement, qui sont surtout concernés, peuvent être confrontés. Alors, est-ce qu'on arrivera à faire des traitements médicaux, je dirais, in utero ou même sur l'embryon, à savoir ne plus faire éliminer ou pas éliminer, mais plutôt transformer. Parce que déjà, vous parliez des modifications. Alors, les OGM, quoi. Il y a déjà, aussi bien dans le monde végétal, dans le monde animal, hein, des saumons à croissance rapide, des ovins, il y a une fabrique d'ovins, on va dire une fabrique, hein, particulièrement en Uruguay, je crois, ou en Argentine, qui sont particulièrement développés pour la viande, des porcs qui sont résistants à certaines maladies, des blés qui sont résistants, et puis on arrive à un forçage génétique, on va le voir avec certains moustiques qui vont pouvoir peut-être enrayer, du fait de leur atteinte génétique qu'on va leur faire, la diffusion du paludisme. Donc on est sur des choses positives, mais bien sûr on se dit, est-ce que ça va passer chez l'homme ?
Oui, ça va passer parce que il y a deux choses qui vont permettre d'y passer. D'abord, de plus en plus, on va pratiquer, même en France, le diagnostic prénatal non-invasif. Donc, on va passer de l'amniosynthèse, de la bonne vieille amniosynthèse, mais qui avait des effets pervers quand même parfois redoutables, à des diagnostics prénataux. Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous connaissez ça un milliard de fois mieux que moi, mais qui sont non-invasifs, donc avec simplement une analyse génétique, avec une goutte de sang. Et donc, Quand on pourra rajouter...
Non dangereux, puisqu'on
peut... Voilà, puisqu'on risque pas de provoquer un avortement non voulu en pratiquant justement ce diagnostic qui permet de savoir si l'enfant, enfin le fœtus, est normal ou pas. Et donc, oui, si on ajoute à ces diagnostics prénataux non invasifs la possibilité d'ingénierie génétique qui va se développer notamment grâce à ce qu'on évoquait, ce fameux sécateur d'ADN, le CRISPR-Cas9, alors oui, très, très vraisemblablement, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on y sera. Et de toute façon, si c'est pas dans 30 ans, ce sera dans 50. Et donc, il faut réfléchir dès maintenant.
Donc, ceux qui naissent aujourd'hui verront automatiquement ce genre de disponibilité du choix, je dirais, qui sera teinté d'une éthique à redéfinir.
Et d'ailleurs, juste un point qui est important, que souligne le plus grand, ou en tout cas le plus connu des philosophes américains aujourd'hui, Michael Sandel, qui est véritablement une star, si je puis dire, de la philosophie aux États-Unis, nous perdons notre innocence, parce que de plus en plus, nous sommes renvoyés à notre responsabilité. C'est-à-dire que de plus en plus, from chance to choice, de la loterie au choix, nous sommes obligé en quelque sorte de choisir. Et d'ailleurs, si vous ne choisissez pas, par exemple, si vous ne voulez pas pratiquer une intervention génétique le jour où ce sera possible sur votre enfant ou sur l'embryon, ne pas choisir est aussi un choix. De toute façon, vous êtes obligé de choisir parce que ne pas choisir, c'est tout autant choisir que choisir, si je puis dire. Et donc, on n'aura plus le choix de ne pas choisir.
Dès que la connaissance peut être touchée. Exactement. Voilà. L'apprendre ou ne pas l'apprendre, c'est de toute façon.
Mais de toute façon, un choix. C'est ce que je dis à Jürgen Habermas, qui dit voilà, il faut pas s'obliger à choisir. Mais de toute façon, on est obligé. Comme dit Michael Sandel, nous avons perdu l'innocence parce que nous savons que nous pouvons choisir d'améliorer l'être humain ou de ne pas l'améliorer. Et donc, même si, par exemple, pour des raisons religieuses, parce que je suis un catholique traditionnaliste ou un juif traditionnaliste, je ne veux pas toucher à l'ADN de mon fœtus, eh bien, c'est un choix. C'est un choix comme un autre. Et d'ailleurs, juste encore un point, j'entendais l'autre jour Jean-Claude Amaeson, pour qui j'ai grande estime, expliquer les nouvelles découvertes en matière d'épigénétique. Il faut, dans une très belle leçon, d'ailleurs qu'on peut trouver, je crois, assez facilement en podcast, qui passait sur France Inter pour parler d'une chaîne concurrente. Eh bien, ce qui est quand même fascinant, c'est que on découvre de plus en plus que de toute façon, il faut pas se crisper, si je puis dire, sur l'idée que l'ADN détermine tout. On s'aperçoit que il y a trois niveaux dans
l'expression de l'ADN.
Il y a l'expression de l'ADN, mais bien sûr, de l'épigénétique et du câblage. Voilà. Et donc il se passe beaucoup de choses à partir de cette structure fondamentale qui reste évidemment l'ADN, mais il se passe beaucoup de choses après, notamment deux niveaux supérieurs qui sont le câblage neuronal et puis l'épigénétique proprement dit. On sait qu'aujourd'hui il y a transmission de caractères acquis. On aurait dit ça à la grecque de biologie il y a 10 ans, on était boulés. Aujourd'hui, on découvre qu'en effet, Lamarck n'avait pas entièrement tort. Sur le coup de la girafe, il a tort, mais il y a quand même, il peut y avoir transmission de caractères héréditaires s'agissant de l'inhibition de l'expression de certains gènes. Donc c'est assez fascinant ce qu'on découvre.
C'est un problème dans les tenants de l'augmentation.
Oui.
C'est qu'une fois qu'on a augmenté quelqu'un, ça se transmet pas forcément à la génération suivante. Hein.
Non.
6 générations suivantes, il y a, puisque si on vit éternellement, on a plus d'une nouvelle génération. Donc ça, c'est une thématique qui n'a pas été...
Alors,
d'ailleurs,
ça
toute la reproduction,
qu'on a
le désir, la sexualité, tout ça de nos robots reste quand même encore assez mystérieuse.
Enfin, si l'augmentation est somatique, vous avez raison, si elle est génomique, si je puis dire, ça peut se transmettre. Donc c'est
absolument
un vrai problème.
Absolument. Là, si on modifie effectivement
le génome,
ça va dépendre de l'environnement,
l'épigénétique
qui va
de l'expression
moduler
des gènes.
Donc on n'est pas sûr que la modification qu'on veut faire se transmette.
Elle peut être inhibée, en effet, oui.
Il y a du fondamental dans tout ce que nous discutons, Luc Ferry, c'est les grands mythes.
Ah oui.
Hein, les grands mythes.
Votre
grande passion, la passion de tout le monde, parce on y revient sans cesse. Oui. Alors le premier, le plus grand, et vous avez écrit aussi dessus, c'est Prométhée.
Oui.
Qui revient, je dirais, dans tous les livres, que ce soit celui de Dominique Lecourt, Prométhée, Faust, Frankenstein, que ce soit dans Marie Shelley, on parlera de Frankenstein dans un instant. Donc Prométhée, celui qui pense en avance.
Oui, par opposition à son frère. Voilà. Épiméthée, c'est l'idiot de la famille. Épiméthée, celui qui pense après coup. Et Prométhée va être puni par Zeus parce qu'il va donner le feu et les arts à l'humanité, les arts au sens des techniques à l'humanité, et que par conséquent, il va permettre à l'humanité d'être la seule espèce vivante, ce qui d'ailleurs est tout à fait juste, capable de détruire l'œuvre de Zeus et à la création du cosmos. Nous sommes, mon cher René, les seuls êtres vivants, à la différence des ours, des lions ou des lapins, nous sommes les seuls êtres vivants capables de ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire de capables de détruire le cosmos tout entier. Avec, par exemple, aujourd'hui, l'atome ou avec beaucoup d'autres choses d'ailleurs, on est capable de détruire aujourd'hui la planète tout entière, de détruire l'humanité elle-même, ce qu'aucune autre espèce vivante n'est capable de faire. Et donc le mythe de Prométhée, l'homme prométhéen, c'est justement cet homme qui va, cet être humain qui va être capable de pécher par ce que les Grecs appellent l'hubris, c'est-à-dire la démesure. On traduit souvent par orgueil, par arrogance, mais c'est vraiment démesure, c'est un être qui est capable de dévaster la planète. Alors évidemment, dans le transhumanisme, on retrouve cet homme prométhéen parce que le transhumanisme, oui, c'est la démesure par excellence, c'est la perfectibilité infinie, c'est en tout cas le fantasme ou le projet. Peu importe, on peut choisir les deux formules, d'une perfectibilité infinie de l'être humain.
C'est-à-dire que c'est toujours des mythes où l'illustre, celui qui est au centre, oui, Prométhée, oui, ou d'autres, oui, oui, fait une rupture, hein, et sort des clous. Même Lilith, hein, la fameuse démone qui n'a pas voulu se soumettre, c'est toujours elle va être une grande génitrice avec tous les démons qui passent les uns après les autres. Donc on a là on transgresse, hein, on est sur la transgression.
Oui, mais
et
c'est
quelque
bien.
Part il y a de la punition.
Oui,
qui tombe.
Mais en même temps, Prométhée est quand même un être formidable. Parce que pourquoi Prométhée ? Il faut rappeler le début du mythe. Zeus et les Olympiens ont gagné la guerre contre les Titans. Les Titans, c'est les premiers dieux, sont des forces de la destruction, de la violence. Ils sont voués à la guerre. Et une fois que Zeus a fait enfermer les Titans dans l'Hadès, dans les enfers, que les Titans sont devenus totalement inoffensifs, eh bien, les 14 Olympiens, parce qu'ils sont 14, on croit souvent qu'ils sont 12, mais ils sont 14, les 14 Olympiens, ils s'ennuient à mourir, si je puis dire. Mais ils sont immortels, donc ils peuvent même pas mourir. Et Zeus demande à Prométhée de créer l'espèce humaine, justement pour se désennuyer de la paix, de se désennuyer de ce calme olympien, ce fameux calme olympien qui devient mortellement ennuyeux. Et donc on va inventer les mortels. Pourquoi ? Zeus s'ennuie. Et surtout ses collègues, si je puis dire, enfin ses frères et sœurs et ses enfants, les autres olympiens, ils s'ennuient à mourir parce qu'il ne se passe plus rien. Et si on invente les humains...
C'est un peu le risque de l'éternité d'ailleurs.
Hein. Et ben, exactement. D'ailleurs, Freud reprendra ça de manière très profonde. Le calme olympien, c'est-à-dire le moment où il ne se passe plus rien, où tout est en équilibre, en harmonie parfaite, c'est la mort. Et donc, on va fabriquer les humains. Zeus demande à Prométhée de fabriquer les humains pour avoir une espèce vivante qui est mortelle et du coup, pour que l'histoire et la vie, la succession des générations se réintroduisent dans le monde, qu'il se passe quelque chose et que les dieux puissent se distraire avec les humains. D'ailleurs, souvent de manière assez sadique, un peu comme un enfant sadique qui arrache les ailes des mouches. C'est pas des dieux très gentils. Mais en tout cas, Prométhée, il est là. Bien sûr, il transgresse, mais en même temps, il transgresse pour le plaisir des dieux qui vont le punir, mais qui sont quand même très contents que ces humains les désennuient du calme olympien dans lequel ils s'étaient enlisés.
Alors, autre figure aussi qui arrive comme une transgression qui est parfois bénéfique, parfois maléfique, c'est la création du golem, c'est-à-dire la création d'un être qui n'est pas humain. Et justement, c'est là toute la discussion. Quel est le statut du golem, repris depuis les psaumes 139 jusqu'à toute le Moyen-Âge, etc. Ce golem qui est sous la dépendance de l'homme qui connaît le langage secret ou qui écrit le nom de Dieu ou le nom de mort sur son front. Est-ce que c'est pas une référence au futur robot ? Quel statut ? Puisque le golem, par exemple, dans la tradition juive, ne peut pas faire partie de certaines cérémonies parce qu'il n'est pas considéré comme un homme. Est-ce que les robots vont être considérés comme cela ? Juste un mot, je renvoie une future exposition de Ada Ackerman, hommage, c'est-à-dire au musée d'art juif à Paris, sur le golem, pour ceux que ça passionne, et il y a de quoi.
Alors, le golem, ce qu'il a en commun avec les humains, c'est qu'il peut mourir. Hein. Il suffit d'effacer la première lettre de son qui figure sur son front. Sur son front, il y a marqué Emet, ce qui veut dire en hébreu la vérité. Il suffit d'effacer le E, ça donne Met, qui veut dire la mort. Et donc, il peut mourir. Ça, c'est son point commun avec les humains. Il est mortel. Donc, c'est pas un dieu. En même temps, il n'est pas humain, le golem, parce que Il est fabriqué à partir de la glaise, il a plein de qualités, il est très fort et tout ce que vous voudrez, mais il n'a pas le libre arbitre, il n'a pas la conscience de soi, il n'a pas le libre arbitre. Il est créé pour protéger sa communauté, voilà, la communauté juive, notamment au XVIIe siècle, il va être un défenseur des communautés juives, notamment de Prague, contre les pogroms. Mais il n'est pas humain parce qu'il n'a pas la conscience de soi et le libre arbitre. Alors, le projet post-humaniste qu'on évoquait tout à l'heure, ce serait de fabriquer plus qu'un golem, ce serait de fabriquer un ordinateur qui, lui, aurait la conscience de soi, le libre arbitre et même des émotions, qui serait capable de souffrir, d'aimer, de... Voilà. Alors, quand on dit ça, ça fait rire, mais moi, je vous garantis que quand on voit les travaux de l'Université de la Singularité, on se demande, en effet, si on ne va pas y arriver. D'ailleurs, vous savez, moi, mon père était un très bon joueur d'échecs. Il est mort il y a quelques années, mais si on lui avait dit qu'une machine battrait le champion du monde d'échecs, il aurait hurlé de rire, il aurait dit que c'était une blague. Bon. Et aujourd'hui c'est le cas.
Le livre de Assouline, qui s'appelle Le Golem, justement, qui vient de sortir.
Non, j'ai pas lu.
Mais alors, il est assez étonnant parce que justement.
Je vais m'empresser de le faire.
Oui, parce que c'est vraiment un joueur d'échecs extraordinaire à des crises d'épilepsie. Il demande à son copain neurochirurgien d'être traité. Enfin, il accepte d'être traité. Mais le neurochirurgien est un transhumaniste. Et il lui colle une aiguille dans une zone où il sera augmenté à son propre dépens. Je vous dis pas la suite, qui est plutôt comme un roman policier.
Je vais
policier.
Dire ça avec bonheur.
Enfin voilà, on est dans des choses extraordinaires. Mais c'est tellement
enfin,
extraordinaire.
Les mythes anticipent tout ça. C'est vrai
oui,
que c'est très intéressant.
Et les films. Et ce qui se passe au cinéma, qui
bien
est assez
sûr.
Extraordinaire. Mais c'est tellement riche que je suis obligé de vous réinviter la semaine prochaine.
Quel bonheur.
Nous ne pouvons pas terminer. Il y a tellement encore de choses à dire sur le transhumanisme. Luc Ferry, merci d'être venu. Merci de revenir. Pour tous ceux que le futur de la santé intéresse, je vous invite à venir au Théâtre de l'Odéon le samedi 3 septembre à partir de 11h. Vous aurez l'occasion d'écouter 30 personnalités qui vont présenter leur vision de la santé du futur. Organisé par Yves Agide et les collaborateurs, c'est assez exceptionnel. Les discussions du soir avec René Friedman, en présence de Catherine Denet, de Manuel Couturier, de Didier Lagarde, c'est un plaisir.
Merci à vous.